Macro, micro, l'émission qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine.com.
Jérôme Dédéian, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes le président de mon partenaire patrimoine et pour ce tout premier podcast de Macro Micro, on s'intéresse à l'inflation. Est-ce qu'elle menace mon épargne? En tout cas, les investisseurs semblent s'en préoccuper. Les épargnants doivent-ils s'en inquiéter?
Alors Fabrice, pour bien comprendre, il faut commencer par dire que l'inflation n'est pas a priori une mauvaise chose en soi, puisque dans sa définition la plus simple, qui est celle d'une hausse des prix, elle peut provenir d'une amélioration de la qualité des produits et services vendus par les entreprises et d'un excès de demande qui va les faire produire plus, saturer leurs coûts fixes et donc augmenter leurs marges. Et donc une légère inflation, elle est plutôt saine et dans cette situation favorable d'une légère inflation générée par un surcroît de demande ou une amélioration de la qualité, les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, sont positifs. Donc c'est une situation normale dans laquelle quand je prête de l'argent, je fais une marge. Et donc les établissements financiers ne sont pas déstabilisés par des marges faibles ou nulles. Et puis la croissance économique, l'augmentation de l'assiette taxable, fait qu'il y a des recettes fiscales qui permettent de financer les politiques publiques sans créer de déficit excessif. Donc ça, c'est la bonne inflation. Et d'une certaine façon, on peut dire que depuis toutes ces années, les banques centrales et les gouvernements courent comme Indiana Jones à la recherche de l'arche perdue, à la recherche de la bonne inflation perdue, et que malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais réussi à la faire redécoller. Et donc cette saine inflation n'est pas forcément mauvaise, parce qu'elle vient lutter contre deux gros facteurs déflationnistes qu'on connaît très bien, qui sont la baisse de la croissance démographique, le vieillissement de la population, et puis le progrès technologique.
Donc, ces signes de retour de l'inflation devraient finalement satisfaire les investisseurs et les gouvernements. Alors, pourquoi cette inquiétude en ce moment ?
Alors, c'est la panique, parce qu'ils ont peur que l'inflation qui arrive soit non pas la bonne inflation que je viens de décrire, mais une mauvaise inflation. La mauvaise inflation, c'est celle dont on perd le contrôle. C'est celle qui transmet les hausses des prix aux salaires, puis les salaires aux hausses des prix dans ce qu'on appelle une spirale inflationniste en macroéconomie. Et ça peut aller jusqu'à provoquer l'hyperinflation qui peut ruiner un pays et l'obliger à changer de monnaie. C'est le Venezuela en ce moment, mais ça a lieu dans la République de Weimar plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. En fait, cette inflation non maîtrisée que craignent les investisseurs, elle provient toujours d'un gros déséquilibre macroéconomique, qui est soit un déséquilibre de balance commerciale, qui va renchérir le prix des importations d'un pays et donc avoir une contagion en hausse des prix, soit quelque chose qui est beaucoup plus grave, qui est un déficit budgétaire d'un État trop important, financé par de la création monétaire, et ça fait monter les prix, puisque quand vous mettez beaucoup de liquidités en circulation et qu'il y a toujours la même quantité de biens et services à acheter, et bien mécaniquement, ça fait monter les prix, et c'est ça qui génère la spirale que craignent les investisseurs.
Oui, ça peut rapidement devenir insoutenable. Alors, où est-ce que ça va? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Est-ce que c'est grave?
Alors, sans aller jusqu'à l'hyperinflation, celle qui ruine un pays, on voit bien le risque lié à une inflation subie et trop forte. Les entreprises, comme elles craignent la dépréciation de la monnaie, en fait, elles mettent leurs ressources, au lieu de les investir pour produire, elles les mettent dans des refuges, de l'or, de l'immobilier, et elles anémient ainsi la croissance. Les épargnants, et c'est là où ça concerne tous les épargnants, s'appauvrissent, puisque le rendement des actifs productifs, les actions, les obligations dans lesquelles ils peuvent investir leur épargne est faible, alors que les prix montent. Et donc il y a une perte de pouvoir d'achat de mon épargne, sans parler évidemment du risque de crack obligataire, boursier, immobilier, lié à une hausse des taux d'intérêt trop brutale, qui serait nécessaire pour essayer de calmer cette spirale inflationniste. Et puis évidemment, sur le plan des finances publiques, il y a un effet de spirale, puisque les déficits publics se creusent, faute de recettes fiscales, puisque la croissance est anémiée, et les États ont recours à la création de monnaie pour essayer de financer ces déficits, et ils aggravent le cas, ils alimentent la spirale.
Ils alimentent la spirale, notamment avec l'utilisation peut-être excessive de cette planche à billets.
Exactement. Et alors, vous voyez bien où je veux en venir, Fabrice. Depuis des années, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a fait marcher la planche à billets de façon aussi monstrueuse. C'est vrai parce qu'on a essayé de lutter contre les facteurs déflationnistes que je citais, baisse de la croissance démographique, vieillissement de la population, progrès technique. Ensuite, on a lutté contre la crise financière avec la chute de Lehman, la crise des subprimes, etc. Et puis désormais, avec la pandémie, et on a, avec le soutien des banques centrales, créé finalement une masse de liquidités qui est en ce moment en train d'inonder le marché, avec un maintien, grâce aux banques centrales, des taux anormalement bas. Et le paroxysme de cette planche à billets, c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, puisque si on fait le cumul des plans de relance de Trump et de Joe Biden, on en est à des ordres de grandeur de plus de 6 000 milliards d'euros. Ça fait 3 à 4 fois le déficit de produit intérieur brut de croissance que la pandémie a créé. Et donc on a peur, les investisseurs ont peur qu'on ait mis beaucoup trop de relance et que du coup, ça crée un choc inflationniste par excès de demande et insuffisance de l'offre, hein, incapacité des entreprises à suivre la demande. Et puis, bien entendu, quand on met autant de liquidités sur le marché, ça fait des bulles puisque ça fait monter tous les actifs de façon uniforme.
On peut les citer, hein. On a eu la bourse, évidemment, mais aussi les obligations en rendement, l'immobilier, les crypto-monnaies. Et puis même des nouveaux véhicules qui viennent d'arriver à la bourse. On parle de SPAC. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, alors c'est un signe de bulle. Hein. Le SPAC, le Special Purpose Acquisition Company, c'est une mode qui se développe outre-Atlantique. Il y en a plusieurs qui se lancent par jour en ce moment et on est en train de l'importer. En fait, c'est un chèque en blanc que vous faites à des investisseurs renommés dans un domaine de compétences et qui disent « je lève de l'argent dans un véhicule coté ». Donc c'est un véhicule qu'ils introduisent en bourse alors que ça n'est qu'une grosse tirelire, un cochon avec des liquidités que vous avez mis vous en tant qu'épargnant ou investisseur. Et ils vous promettent qu'ils vont utiliser cet argent pour acquérir une cible qu'ils n'ont pas encore cherchée ni trouvée. Et du coup, cette cible, souvent non cotée, va être instantanément cotée puisqu'elle est rachetée par leur véhicule coté. Et en fait, c'est un chèque en blanc. Et ils prennent des frais de structuration très importants. Et donc, quand vous êtes épargnant là-dedans, vous avez de fortes chances de perdre de l'argent puisque vous allez payer d'abord beaucoup de frais des gens qui le structurent. Et puis par ailleurs, ils vont avoir tendance à acheter cher leur cible. Donc, ce n'est pas forcément de très bonnes opérations. Et pourtant, il y a des investisseurs pour les acheter. C'est un signe de bulle.
Et c'est ce que dit d'ailleurs un investisseur célèbre, Warren Buffett. Alors, dans ce contexte que vous nous avez très bien expliqué, Jérôme Dédéant, inflation qu'on connaît en ce moment, est-ce qu'elle est dangereuse ou pas ?
Alors, évidemment, si on pouvait répondre à cette question, on ferait l'opération financière du siècle et on enrichirait non seulement soi-même, mais aussi tous ses clients, puisque le sujet, c'est de savoir si cette poussée inflationniste liée à la relance, hein, à la sortie de crise porte de la pandémie, est temporaire et va s'ajuster naturellement. C'est un peu les partisans de ce qu'on appelle le super cycle de croissance. Eux, ils pensent qu'il y a un choc conjoncturel lié à la relance et aux liquidités, mais que comme on doit énormément investir dans les infrastructures, la transition énergétique, et d'une part, et deuxièmement que il y a toujours de puissants facteurs déflationnistes à l'œuvre, qui sont donc la baisse de la croissance démographique et le progrès technique, au fond, on est en face d'un cycle de croissance très long qui n'en est qu'à ses débuts. Et que du coup, les tensions passagères sur les prix liées à toutes ces liquidités qu'on a mis, elles vont se résorber par ajustement de l'offre et puis la hausse des taux d'intérêt modérés que les banques centrales vont faire pour l'accompagner en gardant leur soutien. Et puis, il y a une deuxième école que j'appelle l'école du sauf qui peut, qui pense que le déséquilibre macroéconomique de ces liquidités est tellement élevé que ça va forcément entraîner une spirale inflationniste qui va causer une montée rapide des taux d'intérêt mal maîtrisés et créer un choc brutal. Et ce choc brutal va se répercuter sur tous les actifs qui se sont inflatés à cause de cette masse de liquidités, donc les marchés financiers, avec au minimum éclatement des bulles qu'on a identifiées et au pire une nouvelle crise financière, et puis des enjeux sur la solvabilité des États et sur le niveau de croissance économique long terme. Et donc ce scénario de remontée trop brutale des taux d'intérêt, si jamais on part dans une spirale inflationniste, c'est ça que craignent les investisseurs en priorité et serait évidemment catastrophique pour les investisseurs et pour l'épargne.
Un scénario plutôt rose, un scénario plutôt noir. Quand on est épargnant, que faire pour se protéger dans ce contexte très incertain ?
Alors, on peut se protéger, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et donc très concrètement, on peut commencer par s'endetter. Alors, s'endetter à taux fixe. Pourquoi ? Parce que comme les taux sont encore bas et maintenus par les banques centrales, quand je m'endette à taux fixe, dans un contexte où le potentiel de hausse des taux d'intérêt, si je crains l'inflation, est supérieur à son potentiel de baisse, au pire, il se passe rien et je sais combien j'ai de charges de remboursement. Et au mieux, je vais voir l'inflation venir éroder ma dette et je vais m'enrichir parce que je me suis endetté et que j'ai pu investir le produit de mon emprunt dans des actifs qui me rapportent plus. Hein, si c'est très simple à comprendre. Si j'emprunte à 1% et que je replace à 3%, je gagne 2% net.
Alors d'accord, mais ça comporte du risque. Il y a quand même de nombreuses bulles. Si j'emprunte à 1% pour acheter des actifs qui vont se dévaloriser, à terme, je risque de ne pas pouvoir rembourser.
Alors oui, j'ai emprunté à taux fixe, hein, donc je connais quand même ma charge de remboursement. Et la deuxième recommandation, c'est évidemment, dans cette perspective de potentiel retour d'une mauvaise inflation, c'est d'appliquer une stratégie de placement qui résistera à un choc inflationniste s'il survient. Alors il y a plusieurs volets, et là, on quitte la macroéconomie, c'est le principe de notre émission, pour rentrer dans la microéconomie, ma décision individuelle d'épargnant. La première, c'est d'éviter les actifs non tangibles et de bulles. Alors ça va. Alors c'est très difficile souvent de passer à l'écart des effets de mode, effets de mode des crypto-monnaies, effets de mode de ces SPAC, hein, ces Special Purpose Acquisition Company qu'on a évoqué. Mais ce qui est clair, c'est que les actifs spéculatifs ou à fort levier à taux variable sont les premiers qui trinquent en cas de hausse brutale des taux d'intérêt. Donc il faut se tenir à l'abri de ces actifs non tangibles. Il faut par ailleurs éviter le produit de placement favori des Français, le fameux fonds en euros, des contrats d'assurance vie. Parce que vous imaginez bien qu'avec une inflation qui repart, compte tenu des rendements actuels des fonds euros qui sont érodés avec le papier obligataire très bas qu'ils ont mis en portefeuille ces dernières années, le rendement réel de votre épargne sera complètement négatif, plus le risque évidemment de choc sur le bilan des compagnies d'assurance qui risque de secouer un peu. Et du coup, si on dit on évite les actifs non tangibles et de bulles et on évite les fonds en euros, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste d'abord sur les produits de taux, les gestions obligataires flexibles non benchmarkées. Donc, je m'explique, en fait, il ne faut pas acheter de l'emprunt d'État à taux fixe. Ce seront les premiers victimes de la remontée des taux. Et donc, il faut plutôt essayer d'investir dans un univers où il y a encore du rendement et des possibilités d'arbitrage, de courbe de taux, de risque crédit, avec un vrai savoir-faire de gestion active. Donc là, il y a des produits très concrètement qui permettent de faire ça. Il y en a un que j'aime bien, qui est Carmignac Portfolio Flexible Bonds, qui parie en ce moment sur la réouverture des économies, sur la dette financière subordonnée des banques, avec l'amélioration des conditions des bilans des banques, et sur la dette émergente. Ce fonds, il est par ailleurs couvert contre le risque de change. Et donc c'est extrêmement important puisque, évidemment, le risque d'inflation crée un risque d'incertitude sur les parités de change entre monnaies. On peut aussi citer un fonds comme Échiquier Alta Roca Hybrid Bonds qui intervient sur le marché obligataire des entreprises privées non financières en zone euro et dans l'OCDE. Et sur un segment de marché où il y a encore du rendement et où, avec une forte sélectivité des titres achetés et des perspectives de détention longue, vous pouvez générer du rendement obligataire. Et puis, il faut aussi, toujours sur la partie obligation, vérifier que la partie obligataire des fonds diversifiés, prudents ou équilibres que vous détenez dans votre épargne est bien gérée et qu'elle est bien gérée activement et désensibilisée au risque de hausse des taux. En gros, que ce n'est pas des emprunts d'État, mais bien, ou que s'il y a des emprunts d'État, c'est plutôt sur une position courte, c'est-à-dire qui permet de bénéficier de la hausse des taux parce qu'on est vendeur d'emprunts d'État plutôt qu'acheteur.
En résumé, on évite les actifs non tangibles et de bulles, on évite également les fonds en euros, on privilégie les gestions obligataires flexibles, non benchmarkées, mais vous savez bien, Jérôme, que les épargnants français, ils aiment bien le concret, et en particulier la pierre ou bien les actions pour certains.
Absolument. Et alors, la dernière recommandation, c'est évidemment de détenir des actifs réels en matière d'actions et d'immobilier. Actifs réels, parce que quand vous achetez les actions d'une entreprise ou que vous achetez un bien immobilier ou un support immobilier qui détient des biens immobiliers, vous êtes propriétaire de quelque chose de très concret qui vaudra toujours quelque chose. Sur l'immobilier, c'est assez simple. Il y a un enjeu de sélection des immeubles. Vous savez quand même qu'on est dans un contexte où les différentes sous-classes d'actifs du marché immobilier, notamment les bureaux, les commerces, sont soumis à une pression assez forte compte tenu des nouveaux usages et de la sortie de crise de la pandémie. Et que quand il y a un risque d'inflation, donc de hausse des taux d'intérêt, généralement, ça a un impact négatif sur le prix de l'immobilier. Hein. L'immobilier monte quand je peux emprunter moins cher pour devenir propriétaire. Et en revanche, il baisse quand les taux d'intérêt montent, puisque la demande de gens qui veulent en acheter est moins solvable. Et donc, au fond, ce qui vous protège en immobilier, c'est la sélection de la qualité des biens. Donc nous, on fait très attention dans toutes les opérations de loueurs en meublé non professionnel, de Pinel ou de sélection de SCPI pour nos clients, de faire très attention qualitativement à la qualité des biens qu'on rentre en portefeuille pour l'épargne de nos clients, car c'est la qualité intrinsèque des immeubles que vous achetez qui fait la protection de votre patrimoine immobilier en cas de risque d'inflation et de remontée des taux. Pour les actions, c'est absolument pareil. En fait, la phase qui s'ouvre devait être bien favorable à toutes les gestions actives, puisqu'il y a une forte prime potentielle aux gestions qui lisent bien le cycle et qui s'intéressent au modèle économique de chaque boîte, à sa juste valorisation par rapport à ses perspectives. Donc il y a des enjeux de rotation sectorielle classique. Vous savez, quand on est en phase d'un cycle de relance comme en ce moment, généralement, on n'est plus dans les actions de croissance, mais on est plutôt dans les actions value, les cycliques, etc. Mais cet élément de reprise traditionnellement favorable à ces actions cycliques, en fait, ne fonctionnera qu'avec un grand discernement sur les valeurs. Et il y a quand même des thèmes de digitalisation de l'économie, des thèmes de transition énergétique, qui sont des thèmes de croissance qui vont rester. Hein, on n'est pas on ou off sur valeur de croissance ou valeur cyclique. Il faut bien discerner quelle société par société dans lesquelles on veut investir aujourd'hui. Et donc, évidemment, nous, pour conseiller nos épargnants, parmi nos sociétés de gestion de portefeuille chouchoutes, qui ont des capacités de, on va dire, d'analyse et de discernement très élaborées, on privilégie celles qui ont une vraie démarche extra-financière, en plus de leur capacité d'analyse financière classique. Donc Carmignac et Financière de l'Échiquier, on les a déjà cités. J'aime bien citer aussi Sycomore Asset Management, OFI Asset Management, IDAM pour les petites et moyennes valeurs. On a là des analystes qui vont s'intéresser précisément à chacune des sociétés dans lesquelles ils investissent, à ses perspectives et à son cours de bourse, la valorisation auquel on peut l'acheter par rapport à ses perspectives. C'est donc une période dans laquelle la gestion active va retrouver devoir retrouver la faveur des épargnants et des investisseurs par rapport à un cycle habituel de croissance où on s'assied sur l'indice et tout va bien.
On le constate, Jérôme, donc se protéger contre l'éventuel retour de la mauvaise inflation, c'est du travail.
Oui, c'est du travail. Mais heureusement, on a une industrie de la gestion financière qui est extraordinairement développée et des professionnels pour aider les épargnants. Vous souvenez, il y a un groupe qui s'appelle Supertramp qui avait intitulé un de ses albums « Crisis, what crisis ?». Et en fait, si on s'y prend bien, un épargnant averti pourra dans quelques temps dire « inflation, quelle inflation ?».
Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine, merci.
Macro Micro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.